France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La revue 84 fut créée en 1947 par Marcel Biziot, Alfred Kern et Henri Thomas, auprès desquels se trouvèrent bientôt André Dautel et Jacques Brenner. Ce fut après son septième numéro, à la fin de 1948, qu'à l'initiative de Georges Lambrix, la revue passa aux éditions de Minuit. Au lendemain de la Libération, alors que prévalait dans l'édition le modèle NRF, pouvoir s'adjoindre une revue était d'une grande importance pour beaucoup des maisons qui voyaient le jour. Ainsi, bien qu'éphémère, l'existence de 84, sur laquelle planait l'ombre de Jean Paulhan, aida les éditions de Minuit à s'intégrer au monde littéraire. En 1951, alors que trop lourde à assumer pour les éditions de Minuit, la revue vivait ses dernières heures, Jacques Pushmore recevait les animateurs de 84 dans le club d'essai de la radiodiffusion télévision française. À son micro, Jacques Brenner, Georges Lambrix, Alfred Kern et Marcel Biziot exposaient l'esprit de la revue et revenaient sur les sommaires de ses différents numéros. Une émission dans laquelle on pouvait entendre des textes d'Alfred Kern, André Gide, Georges Lambrix, Henri Thomas, Armen Lubin et Antonin Artaud, dit par Roger Blin et par Artaud lui-même.
84
84
84
Qu'est-ce que 84
Une date.
Un numéro.
Un autobus.
84
Qu'est-ce que 84 84, c'est... Une nouvelle revue littéraire que vous présente
Jacques Brenner,
Georges Lambrix,
Alfred Kern,
Marcel Biziot,
avec le concours de Roger Blin. Et nous voici en compagnie de Marcel Biziot, Jacques Brenner, Georges Lambrix et Alfred Kern, rue Saint-Louis en Lille, dans une petite pièce d'un vieil immeuble qui porte le numéro 84, numéro qui a donné son nom à leur revue.
Nous ne sommes malheureusement pas ce soir en réunion plénière, puisque certains d'entre nous n'ont pas pu venir. André Dautel, Henri Thomas, René de Solier.
Armen Lubin.
Armen Lubin, naturellement, qui est malade dans un sana des environs de Bordeaux. Mais il s'agit de constituer le sommaire de ce prochain numéro, qui doit apparaître incessamment. Voici également paru le prospectus qui doit accompagner la prochaine formule.
Prospectus, ce n'est pas exactement un prospectus, c'est plutôt un bulletin de lancement. Nous disions tout à l'heure un catalogue.
Oui, une sorte de résumé, enfin, de l'activité de 84 jusqu'ici, enfin, de tous les numéros parus.
Enfin, souvent, on a les mêmes noms, enfin, que les Cahiers de la Pléiade, un peu avant.
Mais oui, c'est une heureuse rencontre, je crois.
Oui.
Oui. Non, mais ça, c'est un fait. Finalement.
Enfin, nous ne sommes de toute façon
pas
une revue.
On attend souvent d'une revue jeune, n'est-ce pas, un programme, parce qu'on croit qu'ils vont tout changer. Et je crois que pour nous, le problème est plus individuel. La crise du langage, nous la connaissons, mais je crois qu'il n'y a que des solutions individuelles. Mm-hmm. Et ce n'est pas en étalant les problèmes ou en donnant des normes ou des principes.
Oui, ou des manifestes, non, bien sûr.
Et surtout que le côté manifeste, surtout, c'est souvent un peu trop spectaculaire et c'est... Ce sont la publicité.
Je crois qu'à 84, enfin, se sont rencontrés des aventures personnelles et qui poursuivent enfin leur voie.
Oui, d'ailleurs, des quantités d'autres aventures personnelles se sont heurtées à 84 et sont reparties de leur côté.
Oui, mais il se passe que dans ces numéros, enfin, où l'on voit donc, comme disait Georges tout à l'heure, beaucoup d'expériences personnelles, il se trouve que l'ensemble, enfin, le groupe 84, ne forme absolument pas école. Et c'est assez nouveau que de voir un certain nombre d'écrivains se réunir dans une revue sans prétendre faire une école qui aurait des buts, enfin, un programme
ou des principes. Oui, et la réunion, on est d'autant plus intime, enfin, je veux dire. Mais dans la pensée même.
Oui, c'est par la confrontation d'expériences différentes, n'est-ce pas, que l'on espère pouvoir chacun aller un peu plus loin dans ce qu'on avait entrepris.
Je voudrais savoir, quel est votre public? Est-ce que vous savez quel genre de personnes
Le public qu'on souhaite ou le public qu'on a ?
Que vous avez réellement.
Un public de jeunes d'une part, ça c'est évident.
Public d'écrivains de l'autre.
Oui. Oui, un public.
Mais je ne crois pas que le public en fait doive tellement nous préoccuper. Enfin moi en fait ce qui me paraît important c'est qu'il est difficile de faire notre expérience en tenant compte des goûts du public.
Bien sûr. Ça, je le conçois.
Alors, à partir de là, il est difficile aussi, de nous informer sur le genre de public que nous avons. Ce qui importe particulièrement pour nous, il est certain que c'est notre expérience...
À communiquer.
Du groupe ou des gens qui peuvent s'agglomérer à nous. Enfin, et que c'est à partir de là que les choses doivent se poursuivre. Et nous devons trouver notre public. Mais nous ne pensons pas du tout l'avoir trouvé.
Je disais tout à l'heure, peut-être peut-on reprendre le mot, que la revue, le groupe, est pour vous une affirmation de vos idées, de vos talents, une confirmation permanente.
Oui, en même temps, une recherche de ceux qui, comme nous, sont intéressés par cette expérience que nous tentons.
C'est à la fois une affirmation et une contestation continuelle, oui. N'est-ce pas ? Parce qu'enfin, il est certain que, enfin, je ne crois pas que, justement, que nous soyons particulièrement
chaleureux. Oui,
je ne voulais même pas dire chaleureux, enfin, je voulais dire plutôt...
Communicant.
Non, le contraire de malveillant. Bienveillant. que nous soyons particulièrement bienveillants, je ne le crois pas. Je crois qu'il est important, au contraire, que ce soit notre esprit critique qui puisse agir entre...
Oui, quoi que ce ne soit pas une revue de combat. Non. Et c'est ce qui a été affirmé depuis le début de la revue, qui a commencé en somme avec 4 personnes, et qui par des rencontres autour de la même expérience, etc., qui s'est développée, a amené toute la suite des numéros avec les nouveaux, disons, collaborateurs, qui a créé le groupe tel qu'il est actuellement.
D'accord.
Eh bien, il faut dire qu'il y avait non pas seulement une poésie écrite, mais une poésie vécue au début, n'est-ce pas ? Marcel Biziot a rencontré d'abord Thomas, puis Jacques Brenner est venu souvent au 84. On parlait de Dautel. Dautel est venu, Artaud venait, et il y avait de ces soirées, qu'on ne pourra jamais décrire, mais qui nous sont restées dans la mémoire, et qui on s'est trouvé aimé. Je ne dis pas toujours les mêmes choses, mais certains poèmes, on en a développé un certain goût, et c'est ça qui a cimenté,
l'unanimité
de la revue, qui est une unanimité formelle, parce que, évidemment, les différences se sont marquées depuis, chacun a son goût, a ses idées, mais il y a quand même un amour unanime, si vous voulez, pour la bonne littérature, si l'on peut dire.
Enfin, la meilleure façon de l'illustrer, ce sont les textes qui ont paru dans les différents numéros, et notamment dans le premier numéro, qui s'est ouvert d'abord sur un texte d'Antonin Artaud, La magre à la condition.
La magre à la condition, la même, et magre à l'inconditionné. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit la substance de quelque chose, et que quelque chose puisse être considéré sous l'angle où cela pourrait être appelé substance. Où l'idée substance serait évoquée. Je ne crois pas d'ailleurs à l'angle. Je ne crois ni à l'angle, ni à l'idée. Je ne crois pas aux formes initiales, à la forme et à la non-forme. Bien entendu. Ah non, pas bien entendu. Mais je crois à la non-forme encore moins. Je ne crois pas qu'il y ait une forme initiale principe, parce que je ne crois pas au principe, ni au principe. Et je ne dis pas à quoi tout revient, parce que rien ne va ou ne vient, et que rien ne passe par rien de ce qui est état, mode ou être, qui est un état, un mode ou un être. Rien ne passe jamais par rien. Et donc, il n'y a même pas une forme, clou, barre, qui serait la lettre du point, et insultant le point crucial, sans que rien passe par elle, serait reconnue comme étant l'ultime acception, ou refoulée le oui ou non, la voix écrite de tout nom, car étant le de la suspension du en suspens, à quoi rien ne pend. Cela surtout est un enterrement. Donc pas de oui et pas de non, c'est entendu, et pas besoin d'écrit pour dire que pas de revendication. C'est encore remuer des choses. Mais pour cela, il faut y croire. Et pour y croire, y être plié, s'y être un jour laissé plier, je n'y crois pas. Je ne suis pas plié. Je ne réclame plus. Je fais. Et ce n'est ni mot, ni idée.
Puis sur le texte d'Alfred Kern, le verbe procède du père.
L'expression d'une réalité marque déjà le commencement de sa dégénérescence. Toute profération est en un sens une profanation. Les ancêtres ont tout dit. Il ne nous reste plus rien à profaner. Nous connaissons, comme les romantiques, le mal du siècle. Mais nous ne disposons plus de fusées pour offrir un grand spectacle. Ou plutôt, nous n'avons plus le courage de projeter hors de nous les paroles qui gisent en nous. Elles ne sont que cadavres. Qui voudrait se charger de trier cet immense charnier que les siècles ont accumulé? N'ayant plus rien à exprimer, nous ne pouvons que nous décrire dans le vomissement et l'avortement. L'homme est mort depuis longtemps. Il y a quelque temps, l'idiot se promenait encore en littérature, mais n'ayant plus rien à projeter, il s'est mis lui-même hors de lui. C'était sa dernière expérience. Depuis, on ne voit plus âme qui vive. Rien. Personne. Je voudrais que tout ce qui a été dit ne l'ait jamais été. Mais ce désir me semble aussi vain que le geste qui accuserait nos pères d'avoir péché. Dans ce désir même, nous perpétuons leur faute. Nous n'avons de regrets que parce que nous n'avons rien à dire. Et si parmi tous ces cadavres nous trouvions un demi-vivant, il faudrait encore le crucifier. Le Verbe procède du Père. C'est tout ce que nous savons du Père. Le Verbe s'est fait chair, mais son origine reste ténébreuse, car il est impossible de retourner au Père. Le Verbe seul est là, qui parle, et qui se transmet de bouche en bouche. La filiation est infinie, mais le Père s'éloigne de plus en plus. Le Verbe, chaque fois qu'il s'incarne, mène d'abord une vie cachée pour conserver l'anonymat du Père. Sa vie publique n'est que de courte durée, et mène rapidement à l'immolation. Son union avec l'Esprit, sa résurrection, ne sont qu'éphémères. Le Verbe abandonne les lèvres dès qu'il est proféré, et l'Esprit reste absent des lèvres. Par cette filiation infinie, le Verbe s'incarne de nouveau, se transmet de la langue aux lèvres, et se promène sur le bout des lèvres. Mais le don des langues, s'il a le pouvoir d'amplifier le Verbe, n'atteint pas l'Esprit qui reste toujours absent. Le Verbe sera donc toujours crucifié, sans que le Père puisse donner les raisons de ce sacrifice, sans que l'Esprit puisse apparaître et s'incarner. Et le Verbe s'est fait chair et habite parmi nous.
Vos numéros 5 et 6 ont été un numéro spécial sur lui. Était-il mort à ce moment-là?
Ah oui, la mort d'Artaud était, enfin surtout pour nous, je veux dire, une émotion considérable. Et c'est à ce moment-là que sans publicité, enfin si on peut dire, sans côté publicitaire,
moyens,
enfin,
on a fait une sélection de ces textes.
Un des numéros d'hommage qui ont été consacrés à Artaud.
Surtout qu'il y avait très peu de textes, n'est-ce pas, en circulation.
Où sont parus, je ne sais pas, parmi les plus beaux textes d'Antonin Artaud, qu'elles n'ont pas, enfin beaucoup. Parmi ces textes, Roger Blin va dire...
Faites le mal, faites du mal, et commettez beaucoup de péchés. Mais ne me faites pas de mal à moi, ne me touchez pas à moi, ne me faites pas faire le mal à moi. Je m'en vengerai cruellement. Salissez, tarez, Dieu, il ne lui reste plus rien à perdre. Il a déjà fait toutes les saletés. Pas de mal à moi, pas de mal autour de moi, pas de mal où je suis, moi. Que je vive dans un monde pur, que j'ai autour de moi. Des purs, des héros purs.
Et une sorte de post-scriptum qui, enfin, qu'on a retrouvé dans un des derniers cahiers écrits par Artaud avant sa mort.
Oui, et nous avons nous-mêmes un disque enregistré par Artaud, le premier qu'il ait enregistré à la radiodiffusion française, en 47, je crois. Et nous l'entendrons tout à l'heure.
Post-scriptum. Qui suis-je? D'où je viens? Je suis Antonin Artaud. Et que je le dise, comme je sais le dire, immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier.
Fièvre, la fièvre chaude de ma tête, car je suis en état de fièvre. Depuis 50 ans que je suis en vie, me donnera mon opium cet être, celui, tête chaude que je serai, opium de la tête aux pieds. Car la cocaïne est un mort, l'héroïne un surhomme en or.
À ce moment-là, mieux soutenu financièrement, vous avez pu développer votre vue. À ce moment-là, je crois, l'appareil critique.
D'abord, on a essayé le roman et ça n'a rien.
On a publié un roman d'André Dautel en trois parties, dans trois très gros numéros, enfin, qui étaient presque qu'on appelait du numéro double, sans être double, etc. Qui avait un nombre considérable de textes, enfin, des numéros anthologiques, où on trouvait d'abord. Blake, Queneau, Gide, où on trouvait un texte d'André Gide, qu'André Gide nous avait donné, enfin, dans le but d'ailleurs d'aider, de soutenir 84, d'aider au lancement de 84, un texte très étonnant, et qui maintenant fait une figure de testament, enfin, c'est un texte publié dans son journal secret.
Ce qu'on appelle exactement, c'est Carnet des Gides.
C'est Carnet des Gides, puis dont on va lire un passage.
Je me demande parfois ce que je penserais aujourd'hui de ceux qui me paraissaient autrefois si charmants, les revoyant tels qu'ils étaient jadis. Les reconnaîtrais-je? Certains, sans doute. Ce que j'aimais surtout en eux, c'était assurément leur jeunesse. Et c'est elle que je retrouve en d'autres aujourd'hui, ce qui me permet de n'être pas trop mélancolique. Juste un peu, car la seule jeunesse qu'aucun printemps ne ramènera, c'est la mienne. Puissais-je avoir laissé d'elle quelque chaleur en mes écrits? À présent, c'est le tour à d'autres, mais la dépouille que je vais bientôt devoir au tombeau, je voudrais qu'elle ne fût pas trop refroidie. Je ne puis tenir pour sagesse l'effort d'éteindre les derniers tisons du désir, mais de les raviver au contraire. Laissons affaire à la mort. À quoi bon aider à son jeu?
C'est à ce moment-là que vous avez ajouté à la revue.
C'est ça, la partie critique. Après beaucoup de tentatives d'ailleurs, mais on a pensé que le nœud était.
Et alors, l'adjonction de cette partie critique, que représente-t-elle dans le sens?
Beaucoup plus de vie, si on peut dire. Et puis, alors, une affirmation, non pas par le choix des textes seulement,
des prises de position. Georges Lambrix,
Sans que la partie critique soit
engagée.
Si elle nous engage, bien sûr. Mais c'est aussi...
Non, enfin, une revue choisit des textes...
Ne peut à la longue, n'est-ce pas ?
Mais ne peut pas tout publier d'abord. Et dans la mesure où une revue s'est affirmée par un certain nombre de textes, il y a besoin de se confronter avec les textes publiés par ailleurs et de prendre position vis-à-vis d'un certain nombre de questions qui retiennent l'attention. Vous étonniez tout à l'heure que l'actualité ne joue pas un grand rôle pour 84, mais enfin l'actualité ne nous laisse pas indifférents.
Non, bien sûr.
Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de dire quelle était notre position vis-à-vis des livres qui obtenaient la plus grande audience et vis-à-vis des mouvements de pensée qui marquaient historiquement, n'est-ce pas, l'époque où nous-mêmes vivons.
Mais ce qui paraît important aussi à souligner dans ce qui a été fait, puisqu'on ne peut pas évidemment, enfin, on ne peut pas certainement définir ce qu'on recherche, c'est que 84 a d'abord été une revue de textes courts. Oui. De textes. Enfin, où l'affirmation est plus brutale, plus aisée.
Par exemple, quand Georges Lambrix a publié son texte sur la religieuse, ça a été une révélation pour
oui,
ses amis.
Oui, c'est le texte qu'on va lire.
J.C. Religieuse de Georges Lambrix. J'avais rencontré Jasmine Cesson au château de B, où j'occupais, l'on ne m'épargna rien, une chambre cellulaire qui avait été celle autrefois de la religieuse dans le village, à genoux et à date fixe, entretenait l'impitoyable mémoire. La religieuse était morte dans ma chambre. Je couchais sur son lit de camp. Était-ce la survivance de sa pureté ou mon premier dénuement qui ranimèrent, je prétends que je ne rêve jamais, mes durs outrages comme une solennisation de mes infatigables triomphes. Et les croisillons de fer de ma fenêtre faisaient mal aux yeux, telles les rayures de quelques robes légères, côtelées, qui empêchent de voir au-delà. Jasmine Cesson avait 14 ans, les yeux baissés et la dent dure contre ceux qui parlaient de la foi. Avec un sens familier des rivalités, elle faisait son autorité sans réplique. Elle vivait à l'image de quelques saintes blessures qui terrorisent ceux qui s'en déclarent dépourvus. Malmenée, l'on répondait qu'elle avait été repêchée par des parents éloignés qui s'efforçaient au rapprochement. Mais Jasmine était sans pitié, rivée à quelque passion nouvelle à laquelle elle n'avait préparé personne. Elle répandait la sorte de rumeur criminelle dont elle tirerait plus tard le meilleur parti. L'on insinuait bien qu'elle les empoisonnerait, je ne le lui ai jamais entendu dire. Elle négligeait les heures communes des repas. Elle exigeait un menu composé de plusieurs viandes qu'elle mangeait seule, servie par deux ou trois garçons de salle. Elle était belle et dure, elle suppliciait. L'on imaginait sa conduite sans conséquence, puisqu'elle se couchait avant la nuit. Restaient quelques-uns de ses retards, qu'on attribuait, ne s'expliquant pas leur contenu, à certaines rêveries dont on la voyait encore en fin de journée possédée. J'appris par la suite que ces retards ne contribuaient qu'à mieux dissimuler certaines avances qu'elle prenait sur ses serviteurs ou ses gardes. À la pointe du jour, vêtue d'une robe droite en toile blanche, Jasmine sortait du château. Munie d'un rameau blanc et nu-pied, les yeux bleus d'un petit matin d'exécution, Jasmine évitait le hameau voisin, mais bientôt suivi par deux ou trois garçons qui guettaient son passage, ils s'engageaient ensemble sous les châtaigniers, dans les prairies rosées, où ils cueillaient la ciguë, des jonquilles, des herbes folles et des fleurs de l'âge. Sagone d'Henri Thomas. Les gitanes de Sagone, les deux sœurs étaient si belles que l'étoile du jeune homme, comme il passait auprès d'elle, lui fit signe dans leurs yeux. Ce fut un cas de magie. Ces mèches de noirs cheveux, ces corps de neige salis, sont le piège de l'étoile qui tomba cette nuit-là. L'auberge eut ses draps de toile marqués d'étranges ébats. Deux rameaux s'entrelacés sur le corps du voyageur, les mains qui l'ensorcelaient s'entraider comme des sœurs. Dans Sagone où dort un âne, immobile sous la lune, ne cherchez pas les gitanes, j'ai rêvé cette infortune. Printemps de Montparnasse, d'Armène Lubin. Le triangle parfait, ce fut toujours le printemps, et toujours pour nous une fois par an, il naquit sur une sorte de terre-plein, là où se rencontrent les rues Bréa et Vavin. En sa compagnie, « Ah, comme j'aimerais voyager !» me disais-je à la vue d'un beau garçon clair. « Ah, comme j'aimerais jouer avec elle sans danger !» me disais-je à la vue d'une jeune fille en fleurs. Et les rues Bréa et Vavin se rencontraient comme deux cerises accouplées sur une oreille.
Quels sont vos projets pour les mois à venir? Et est-ce que ces projets vont continuer exactement la ligne, si ondulante soit-elle, que vous avez suivie jusqu'alors?
Enfin, nous cherchons, à travers tout ce qui a été publié, enfin, dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle époque, les textes qui peuvent se rapprocher de nos préoccupations actuelles, sans chercher, naturellement, à annexer à nous ces écrivains. C'est toujours le rassemblement de ce qui intéresse les gens qui se sont réunis à 84.
Oui, et puis et parmi les auteurs vivants aussi, enfin.
Oui, et il est certain
que... Tu parles des auteurs anciens.
Oui.
Oui, non, j'ai dit, il n'y a pas seulement les écrivains.
On n'est pas fermé à aucun auteur, ni intéresse. Aux jeunes qui nous envoient des textes. Ni...
Sûrement pas.
Enfin, non, il est certain. Contraire. Mais l'avenir, enfin, c'est là, c'est ça. Tel texte, bref, qui provoque la surprise, nous attendons aussi une surprise de l'avenir, enfin, on ne peut pas... Nous avons des textes à publier, et il y aura d'autres textes à publier, et ça ne finira pas, à oui. moins que la revue...
Et il nous semble surtout, n'est-ce pas, que maintenant, nous avons quand même un passé de 19 numéros.
C'est
et
énorme.
Et que, vu ce que représente...
presque majeur.
Vu ce que représentent ces 19 numéros, on peut espérer qu'un certain nombre de lecteurs peuvent nous suivre désormais avec une certaine confiance.
Vous avez entendu
Georges Lambrix,
Jacques Brenner,
Alfred Kern,
Marcel Biziot et Roger Blin discuter des raisons d'être de 84, nouvelle revue littéraire. C'était une production de Jacques Peuchemort.
Cette émission a été diffusée la première fois le 27 mai 1951 sur la radiodiffusion télévision française.